Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort et glaner un maximum d'informations dans son environnement, voici les 5 motivations secrètes du cerveau, d'après le livre du Bug humain de Sébastien Boller. Des moteurs pour nos cerveaux qui en font le succès de l'espèce humaine tout en précipitant sa chute, car en effet, ces caractéristiques essentielles sont à la base de mécanismes neuronaux nous poussant à vouloir toujours plus et donc à détruire notre environnement en entraînant avec nous d'autres espèces. Peut-on changer cette situation ? Pourquoi et comment certaines personnes arrivent à mener des vies plus sobres matériellement ? Comment ont-elles réussi à déconstruire les travers de notre société de consommation ? Élément de réponse dans ce 8e épisode des Écolonautes avec Mathilde Bresse, mentor d'Edeni Pays de la Loire. Les Écolonautes, épisode 8. Prendre les enjeux écologiques actuels à bras-le-corps, se questionner sur le monde et notre environnement tout en passant par un mode de vie plus sobre, le programme d'Edeni Pays de la Loire nous éclaire sur des solutions concrètes et une vision plus globale des chemins possibles à emprunter pour tendre vers des actions quotidiennes plus écologiques, saines et éthiques. Bonjour Mathilde Bresse.
Bonjour.
Vous étiez déjà notre invitée dans le dernier épisode des Écolonautes avec le zéro déchet comme point d'orgue. C'est ce qui nous a mené la dernière fois. Nous vous retrouvons donc aujourd'hui. On va parler sobriété avec vous dans ce nouvel épisode. Vous êtes donc mentor pour Edeni Pays de la Loire. Avant de nous intéresser à la sobriété des modes de vie, quels sont les sujets indispensables à évoquer selon vous pour débuter sa transition ?
Alors sur la partie sobriété, transition, je pense que ce qu'on peut garder en tête, c'est le nombre de messages publicitaires auxquels on est exposé en moyenne par jour. C'est un chiffre assez élevé puisqu'on estime qu'on est face à une moyenne de 2000 messages publicitaires par jour. Ce n'est pas toutes des pubs en fait, ça peut aussi être des messages sous forme de logos, de marques de voitures, mais il y a aussi quand même les bonnes vieilles pubs qu'on voit dans la rue, qu'on voit sur son smartphone, qu'on a dans ses boîtes mail. Donc 2000 par jour, c'est énorme et je pense que ça peut nous pousser à essayer de sortir de ça quand même.
Est-ce que vous pensez que c'est la seule raison qui fait que c'est si compliqué que ça de diminuer sa consommation de biens matériels ?
Je ne pense pas que ça soit la seule raison. Par contre, je pense que c'est quand même une raison vraiment très importante puisqu'on le veuille ou non, en fait, on est dans une société de surconsommation, surabondance et je dirais même en fait de jetables et de gaspillage. Si on parle vraiment du matérialisme, on est quand même allé trop loin et on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à se demander comment on peut diminuer notre impact sans vivre moins bien, forcément. Il ne faut pas se dire que ça va être forcément triste ou qu'on va perdre en qualité de vie. Enfin, le credo « vivre mieux avec moins » qu'on utilise souvent aussi chez Edeni, ce n'est pas forcément que moins matériellement, c'est tout ce que ça peut apporter de se libérer d'un encombrement, finalement. Ça veut aussi dire vivre avec moins de stress, moins de dépenses, moins de temps passé à descendre les poubelles ou à faire ses cartons quand on déménage. Donc, on peut mettre pas mal de choses derrière moins et pas que des choses négatives, en fait.
Une consommation éclairée, se concentrer à l'essentiel, ça nous mènerait à une vie plus sereine et ça nous aiderait à nous libérer du tic-tac du désir.
En tout cas, il y a plein d'effets inconscients qu'on n'imagine pas tant qu'on ne s'est pas désencombré. On n'imagine pas à quel point, par exemple, se réveiller dans une chambre qui est assez épurée, où il n'y a pas le linge sale, des piles de livres qu'on sait qu'on ne va jamais lire, mais qui sont quand même là. À quel point ça fait du bien mentalement, parce que ça conditionne l'état dans lequel on s'endort le soir et les premières choses qu'on voit le matin. Et ça, c'est valable pour toutes les pièces, en fait. Une cuisine avec plein de plans de travail libres, ça donne envie de cuisiner, quoi. Et ce n'est pas pour rien aussi que quand on va dans des hôtels, généralement, on aime bien aussi les chambres d'hôtel, enfin... pas tous les hôtels, mais des belles chambres d'hôtel, parce que c'est épuré, en fait, ça donne vraiment envie que de s'y reposer. Donc ça, c'est des exemples très à l'intérieur de chez soi. Mais en fait, quand on imagine une ville libérée de la pub, par exemple, aussi, en fait, ça ferait énormément de bien, quoi. On regarderait beaucoup plus la nature plutôt que d'être omnibulé par tous ces messages publicitaires.
À vous écouter, on pourrait penser qu'une des clés pour une consommation éclairée et se sentir mieux chez soi, ça serait également le rangement.
Effectivement, le rangement, alors je pense que vous faites référence à la fameuse célèbre technique de Marie Kondo, l'art du rangement dont on entend beaucoup parler. Ça rentre dans le deuxième R, en fait, de réduire le nombre de possessions et encore une fois de se désencombrer parce que, en fait, tout est accessible, tous les objets sont facilement accessibles aujourd'hui. Il n'y a plus grand-chose qui coûte très cher. Enfin, on peut vite encombrer chez soi, c'est plutôt ça que je voulais dire. Du coup, la méthode Marie Kondo, moi, je ne la trouve pas forcément parfaite parce qu'il n'y a pas du tout l'aspect écolo, alors que pour moi, le minimalisme, c'est aussi une façon d'agir pour minimiser son impact environnemental et pas avoir l'impression d'être là à subir la société de surconsommation. Marie Kondo, elle a une approche beaucoup plus esthétique et son credo, c'est si l'objet ne vous apporte pas de joie, il faut vous en séparer. Par contre, là où j'aime bien sa technique, c'est qu'elle, elle joue beaucoup sur l'inconscient, d'habituer son inconscient à se séparer d'affaires. Donc elle propose des catégories, et la première, c'est celle des vêtements, et c'est une très bonne catégorie pour commencer, parce qu'en fait, on met, je crois que c'est entre 20 et 30% de sa garde-robe. On a beaucoup de vêtements dont on peut se débarrasser, généralement. Et en fait, une fois qu'on a commencé par une demi-journée ou juste 2 heures de tri de vêtements, bah, inconsciemment, donc par définition, on ne s'en rend pas compte, notre inconscient a pris l'habitude de commencer à se séparer d'objets, et c'est beaucoup plus facile d'aller à la catégorie d'après, qui est les livres, je crois. C'est comme ça qu'on arrive à la dernière catégorie qui est la plus difficile, les objets sentimentaux. Mais normalement, quand on arrive à cette étape-là, on est déjà assez aguerri au tri et on y arrive plus facilement. Donc si vous faites du tri chez vous, commencez pas par les photos, par exemple. Ça ne marchera pas. Mais les vêtements, ça devrait très bien marcher. Puis en plus, on peut les donner à plein d'assos qui les revendront aussi, qui les remettront dans le circuit. C'est écolo et puis ça fait du bien. Ouais, mentalement, c'est libérateur en fait de se désencombrer, quoi.
Comment faire pour entraîner son cerveau, selon vous, à supporter la frustration de ne pas avoir tout de suite ?
Bah effectivement, si on est un acheteur compulsif, il y a une méthode que j'aime bien qui s'appelle la méthode Bisou. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais le nom, déjà, c'est tout un programme. Donc, c'est un acronyme. Le B, ça signifie besoin. Donc, c'est une question. En fait, Bisou, c'est les questions à se poser quand on a envie de faire un achat compulsif. Est-ce que j'ai besoin de cet objet ? Fondamentalement, la première question. Le I, c'est pour immédiat. Est-ce que je peux attendre quelques jours, voir si... J'en ai toujours follement envie. Le S, c'est pour semblable. Est-ce que je n'ai pas quelque chose qui ressemble ou qui remplit la même fonction chez moi ? Le O, c'est pour l'origine. Celui-ci, il est quand même important sur le côté éthique. En fait, dans quelles conditions ça a été produit ? On sait que la plupart des objets, ce n'est pas génial alors qu'il y a beaucoup d'alternatives éthiques. Et le U, c'est pour utile. Est-ce que ça remplit quelque chose de vraiment utile chez moi ? Donc la méthode Bisou, c'est... Un petit truc astuce pour les acheteurs et les acheteuses compulsives qui est efficace, quoi.
Comment se faire comprendre des autres quand on s'engage résolument dans des modes de vie plus sobres ?
Ben, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on est souvent surpris par le nombre de personnes qui sont quand même réceptifs, qui sont conscients que, ben, en fait, pour le côté urgence écologique, on est obligé de changer nos modes de vie. C'est pas tenable de surconsommer et de gaspiller. Je dirais qu'il faut quand même pas sous-estimer le nombre de réactions positives qu'on peut avoir autour de soi. Bon, il n'y aura pas que des réactions positives. Et là, je pense que le meilleur conseil, c'est de ne pas sacrifier la qualité ou la beauté des objets, un jouet d'occasion, mais qui soit comme du neuf. Et de la même façon, si on décide, par exemple, de ne plus utiliser d'emballage cadeau jetable, parce que ça, c'est quand même le gros gaspillage de Noël, et qu'on passe sur les tissus japonais... Furoshiki. C'était presque ça, Furoshiki. Ça, c'est, par exemple, c'est une alternative qui est encore plus belle en fait, que les emballages de papier qu'on fait avec du scotch, c'est toujours un peu moche et tout. Donc je dirais qu'il faut quand même pas sacrifier le côté esthétique. Et puis après, il y a des techniques de communication qui sont inspirées de la CNV, donc de la communication non violente, qui sont applicables au mode de vie minimaliste, au mode de vie zéro déchet. Et là-dessus, il y a plein de ressources. Il y a notamment le blog de l'association Zero Waste qui propose le défi Rien de Neuf. Donc c'est un défi pour acheter aucun objet neuf sur une année. Et leur blog est quand même très rigolo, quoi.
On remettra toutes les références sur la page du podcast. Je tenais à faire part d'une expérience personnelle récente puisque j'ai effectivement fait le pas des Furoshiki à Noël dernier. Et avec un beau tissu que je gardais dans un placard qui ne me servait à rien, j'ai pu faire des jolis paquets cadeaux et tout le monde a dit c'est quand même vachement joli.
Ah bah clairement, c'est 10 fois plus joli que ce qu'on a pu faire. Et encore une fois, quand on l'a testé, on ne revient pas trop en arrière généralement.
Quel conseil pour celles et ceux qui souhaitent inciter à agir leur entourage, leur famille, leurs amis, leurs collègues ? Est-ce qu'il y a des voies à privilégier pour revendiquer des changements ?
Ça dépend de qui vous essayez de convaincre. Je pense qu'il faut adapter. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire, offrir un petit livre qui va faire un déclic. Si c'est quelqu'un qui adore regarder des vidéos... Il y a énormément de vidéos d'intérieur minimaliste qui sont très belles. Si c'est quelqu'un qui est sensible au cadeau, bah, offrir peut-être un premier cadeau qui soit un équipement zéro déchet pour remplacer du jetable ou je sais pas, quelque chose qui va l'aider. Puis après, proposer d'en reparler avec la personne. Je t'ai offert ce livre, je l'ai lu aussi, on pourrait peut-être en rediscuter.
Quand on a passé un certain cap, la sobriété devient un mode de vie plus qu'une nécessité. À quel moment, selon vous, cette bascule s'opère ?
Bah, une fois que les besoins fondamentaux sont quand même... qu'on y a quand même répondu, évidemment. On ne peut pas exiger la même chose de tout le monde. Donc, on parle bien de ne pas avoir trop d'objets et de ne pas trop s'encombrer. Mais on ne peut pas couper à certains objets, ça c'est évident. Même s'il y a des exemples très très extrêmes hein, d'intérieur où il n'y a plus de canapé, où les gens sont assis par terre. Bon, chacun son truc.
Alors il y a les minimalismes de l'extrême.
Voilà, ça c'est vraiment extrême.
Y a un Allemand qui vit avec tout ce qui tient dans un sac à dos.
Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça, vivre avec 42 objets, vivre avec un seul jean, une seule chemise. Je pense que c'est un peu extrême et du coup, ça donne pas trop envie. Bah, ça devient un style de vie quand on a répondu à ses besoins primaires. Évidemment, se nourrir, se loger, se divertir, se vêtir, ça c'est évident. On peut pas demander la même chose de tout le monde. Après, je pense que collectivement, en fait, nos styles de vie, ils doivent changer parce qu'on sait qu'on consomme beaucoup trop de matières premières. Donc il y a peut-être un moment où ça va quand même... devenir une nécessité un peu collective, donc autant s'y préparer sur le côté urgence écologique. Et après, individuellement, on se rend compte que ça amène tellement d'apaisement de se désencombrer, parce qu'on se désencombre aussi mentalement. Ça vient assez vite, en fait, comme style de vie. On se rend compte qu'on peut emprunter plutôt que d'acheter, qu'on peut louer, qu'on peut prêter. Ça amène beaucoup de liens sociaux aussi. Et c'est hyper joyeux. Enfin, ça peut amener beaucoup, beaucoup de liberté et plein de nouvelles rencontres. Donc, je conseille à tout le monde de se lancer par un petit tri, petit désencombrement.
Mathilde Bresse, mentor d'Edeni, était notre invitée pour ce 8e épisode des Écolonautes.
Les Écolonautes, épisode 8.
L'ensemble des épisodes des Écolonautes à retrouver sur le www.entreune.net.